Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Coudon, il y a un consensus chez nos invités aujourd'hui parce qu'il y a Steve Fortin qui disait le lien de confiance entre le gouvernement et la population est brisé. Et pour le réparer, le gouvernement se doit de clarifier son message. C'est ce que René Villemur, éthicien, nous a dit. C'est ce qu'Emmanuel Latraverse, analyste politique, nous a dit. C'est ce que Mathieu Boccoté aussi écrit. Salut Mathieu.
Bonjour.
Donc, c'est bien beau de critiquer les gens, de critiquer la population, mais si le lien de confiance est brisé, peut-être que la faute en est aussi au gouvernement.
Ben, c'est que là, il y a une espèce de ton étrange ces derniers jours qui nous vient de la part des autorités, où on nous explique que globalement, les Québécois se comportent mal, les Québécois sont pas disciplinés, les Québécois font pas leurs devoirs à temps, les Québécois mangent pas assez leurs légumes. Et puis là, ben, à cause du fait qu'ils se comportent mal, on va falloir qu'on les mette en pénitence. Il y a quelque chose de très paternaliste là-dedans, une forme de paternalisme rigide, c'est-à-dire sans, il n'y a pas l'espèce d'autorité chaleureuse de François Legault au moment des débuts de la pandémie. Bon, pour dire on n'y est plus non plus, il y a une forme d'exaspération, de lassitude, d'écœurantite, mais il y a, on le voit, une forme d'autorité. J'aime pas autoritarisme, le mot est pas dur, mais une forme de ton paternaliste qui, dans les circonstances, est désagréable pour deux raisons. Premièrement, l'immense majorité des gens respectent les règles. Ça ne veut pas dire qu'ils les aiment, mais ils les respectent. Et réprimander toute une population pour une petite minorité, c'est un problème en tant que tel. Deuxième élément qui est peut-être plus important, en ce moment, il faut juste qu'on clarifie la situation, je dirais, au-delà du très court terme. On nous dira, le gouvernement lui-même, c'est pas exactement ce qui se passe. Je précise mon propos. On est en ce moment dans la crise, la deuxième vague apparaît, bon, très bien. Là, il faut juste savoir, est-ce que jusqu'à l'arrivée du vaccin et ou des médicaments qui répondent bien à la COVID-19, est-ce qu'on va passer de confinement à semi-confinement, à déconfinement partiel, à reconfinement, et cela pour une période durable, parce que c'est la seule manière de traverser la pandémie? Si oui, on le dit, et ça implique par ailleurs, c'est toute une vision de l'existence qui joue à travers ça, notre rapport aux principes de précaution, notre rapport au risque, ou est-ce qu'on continue de naviguer à vue avec des recommandations qui sont quelquefois incohérentes, qui sont quelquefois un peu étranges, et que la population peine à comprendre, parce que qu'on le veuille ou non, le commun des mortels regarde un peu ce qui se passe ailleurs, regarde ce qui se passe ici, regarde ce qui se passe autour de lui, et se commence à juger le gouvernement, non pas avec une sévérité excessive, mais commence à dire, bon, mais là, savez-vous exactement où vous en allez, ou même le savez-vous un peu. Donc, il y a une espèce de confusion qui s'installe, et moi, ce que je redoute, c'est que si le lien de confiance se brise, vraiment, pas simplement chez les coucous et les ozos qui se promènent en disant avec des manifestations étranges, mais si le commun des mortels commence à se dire là il y a quelque chose que on suit plus, on n'embarque plus, c'est là que la situation devient difficile à réchapper, à rattraper, et c'est ce que je redoute dans les temps à venir.
Et là tu vois, là, on sent là, que François Legault est mal à l'aise et il tente de ménager à la fois la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'il voit que la situation est grave, là. La situation elle est sérieuse en tout cas, là, qu'il y a vraiment une possibilité d'une deuxième vague qui va frapper fort, mais en même temps il veut pas non plus déprimer la population en nous reconfinant une autre fois, en fermant des entreprises alors qu'on vient tout juste d'émerger de cette période sombre-là. Donc, il ne sait pas, là, il est entre les deux.
Oui, puis la situation est en tant que telle intenable, c'est-à-dire des pandémies, ça n'arrive pas tous les jours. Et puis, comment réussir à réconcilier des besoins contradictoires, manifestement? C'est-à-dire, bon, préparer des hôpitaux pour la prochaine vague. Mais là, hier, on voyait au téléjournal, à Radio-Canada, le nombre d'opérations, de diagnostics et d'opérations pour les cas de cancer qui sont reportés à cause de la pandémie augmente considérablement. C'est pas un demi-détail non plus. Souhaitons que les cancéreux ne soient pas des victimes collatérales de la pandémie. Ensuite, on voit les entreprises qui ont fait des efforts, les restaurants, les bars qui ont fait des efforts pour s'adapter. Et là, on leur dit, malgré tous vos efforts, eh bien, ça pourrait finir dans deux semaines. Et le jour où on va avoir une crise économique très sérieuse, on sera plus sur le sérum de la PCU, eh bien là, il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire, quand une économie entre en crise fondamentale, c'est pas la pandémie, c'est autre chose, mais ça fait mal aussi. Donc, je comprends que la situation est intenable. Moi, dans les circonstances, je crois, cela dit, que le gouvernement doit se rappeler toujours d'une chose, c'est ce que j'appelle la théorie de la soupape. C'est-à-dire, dans les circonstances, il ne peut pas nous reconfiner comme il l'a fait au printemps. Les gens doivent conserver cette petite liberté qui consiste à pouvoir sortir de chez eux, probablement pas faire des grands parties, on l'aura compris, mais voir un ami, voir deux amis, avoir la possibilité d'aller au restaurant si tout est bien protégé, aller au bar au coin de la rue si c'est bien protégé. Pas pour faire la discothèque à 1h30 du matin, pas pour faire le grand party de minuit, juste la possibilité de conserver le minimum de vie sociale qui permet de traverser la période difficile, sans quoi ceux qui ont une vocation de moine et qui sont capables de rester chez eux à lire 18 heures par jour en faisant leurs prières et en dormant un peu, sont assez peu nombreux, finalement, dans notre société, et c'est plutôt normal.
Écoute, que penses-tu des gens, et là, je parle pas des coucous et des zozos, là, mais que penses-tu des gens qui disent, regarde, là, à un moment donné, on ne peut pas mener ce genre de vie que l'on mène depuis quelque temps, qui est pas normal, en attendant un vaccin qui, peut-être, va arriver dans 2, 3, 4 ans, ou peut-être jamais, hein, il y a toujours pas de vaccin pour le sida. Là, on attend Godot, et Godot n'arrive pas. Et il y a des gens qui disent, ben là, la seule façon vraiment de retrouver un semblant de vie normale, c'est d'essayer de développer une immunité collective. C'est-à-dire que, écoute, il y a des gens qui vont l'attraper, puis à un moment donné, il va avoir tellement de gens qui vont l'avoir attrapé que ça va stopper la propagation du virus, qu'on en est rendu là. Bref, de prendre la recette de la Suède. T'en penses quoi?
Ben moi je suis pas un épidémiologiste, je regarde ça avec la perplexité de l'homme ordinaire qui essaie de comprendre ce qui se passe. Cela dit, cette question-là, elle est débattue en Suède, elle est débattue en Grande-Bretagne, elle est débattue ailleurs dans le monde. Donc là, il faut quand même tenir compte de ça, c'est-à-dire si effectivement le vaccin, le divin vaccin, arrive au même moment que le troisième référendum, c'est-à-dire dans des conditions gagnantes imprévues, un jour lointain, puis on sait pas quand, après la 9e prochaine course à la direction PQ, si tel est le cas, la question est de savoir si nos sociétés peuvent vivre durablement confinées ou s'il va falloir se confronter au virus. Alors, c'est facile de dire ça dans ton salon à l'abri de tout le monde, c'est très facile, mais une fois que c'est dit, c'est une question qui se pose et se débat en ce moment, mais il y a un prix humain à payer qui est immense, il ne faut pas se tromper. Le jour où on décide de se confronter au virus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a une forme de darwinisme effrayant derrière ça, c'est-à-dire il y a des gens qui vont y passer, il y a des gens qui vont être blessés, il y a des gens qui vont être abîmés. Si c'est vraiment l'option suivie, parce qu'il n'y a pas autre solution possible,
il y a des gens qui disent, regarde, ceux qui sont à risque, on les connaît, là, c'est des gens qui ont des maladies respiratoires, bon, etc., ouais. qui ont beaucoup de surpoids ou qui ont un certain âge, etc., ces gens-là, on les confine. Et les autres, on leur fout la paix. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être l'attraper et la grande majorité de ces gens-là vont passer un petit mauvais quart d'heure, puis après ça, ils vont s'en débarrasser et c'est tout. Il y a des gens qui disent...
Moi, je dirais mon hypothèse par rapport à ça, c'est qu'on va le savoir dans quelques semaines ou quelques mois, ça. C'est-à-dire après le deuxième, ce que j'appelle le semi-confinement en ce moment, là, qui est un quasi-confinement, un confinement civilisé, appelons ça comme ça. On sait qu'à partir de là, la capacité de résistance de la population sera émoussée. Là, on va savoir, autrement dit, où nous en sommes collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire dans les circonstances. Est-ce qu'on doit accepter justement cette espèce de nouvelle solution confinement partiel de certaines catégories de la population. Et là, je pense que ces questions-là, pour l'instant, on n'en est pas à se les poser parce qu'on est entré dans la gestion de la deuxième vague. Mais quand on va traverser cet épisode de quelques semaines ou quelques mois, quand on va sortir de ça, là, je pense que c'est ces questions suédoises, on est comme ça, on va se les poser clairement. Mais pour l'instant, on n'en sait rien, on est tous perplexes devant ça. Mais je pense que ces questions-là traînent dans la tête de tout le monde. Ces questions-là traînent probablement même dans la tête du gouvernement. Mais on est rendu collectivement, on n'est pas rendu à cette étape-là. C'est comme s'il y avait une dernière étape de confinement majeur à traverser avant qu'on se pose clairement, mais est-ce qu'on est rendu à cette étape-là dans la gestion de la pandémie?
Mais la vie qu'on mène n'est pas une vie normale. Ça n'a pas de sens et on se rend compte à quel point ce qu'on prenait pour acquis, saluer les gens, embrasser sur la joue, donner la main, et tout ça, là, c'est parti. Et c'est oui. Notre part d'humain aussi, on a une part d'humain qui est disparue.
Non, mais c'est la vie dans son sel, dans son charme. C'est la possibilité de faire avec les siens, de les embrasser, de faire la collade, de fronter ensemble, de faire le banquet, de souper ensemble sans précaution exagérée. Tout ça, bon. Alors là, effectivement, il y a une pandémie. Parfait. On en tient compte, on en tient compte pour vrai. Mais le fait est que si cette cochonnerie-là est appelée à rester, à durer, s'installe parmi nous et fait désormais partie de notre paysage, appelons ça notre paysage de sanitaire, eh bien, et notre société va on en fera des moyens à court et moyen terme. Plus court que moyen d'ailleurs. À moyen long terme, c'est intenable. À ce moment-là, on se posera les questions suédoises, on sait comme ça. Mais vu la stratégie qu'on a embrassée depuis le début de la crise, c'est pas le moment pour ça. Qui sait s'il n'y aura pas un vaccin par ailleurs? Qui sait si le vaccin arrivera pas rapidement? Qui sait s'il ne sera pas efficace? Donc il y a toute une série de possibles qui comptent aussi là-dedans, qu'on ne doit pas évacuer, qu'on ne doit pas tourner en ridicule. Mais il faut simplement savoir que tôt ou tard, si c'est appelé à, si la situation ne s'améliore pas sur le fond des choses, c'est notre rapport collectif au virus qui va changer, ça m'apparaît évident.
Tout à fait. Excellente réflexion. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée.
Au grand plaisir. Bye bye.